Donc nous allons continuer dans Actes 18 à partir du verset 18. Actes 18 à partir du verset 18 et nous irons jusqu'au verset 7 du chapitre 19. Actes 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Jenchré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que j'aille célébrer la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route en parcourant successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc on voit que Paul est resté un certain temps à Corinthe, il est resté 18 mois. Et à un moment donné, ben, il part avec ce couple, Priscille Aquilas, qu'il avait rencontré, où il avait pu travailler ensemble, et il s'en va en direction de la Syrie pour retourner à Jérusalem. Et il fait escale à Éphèse. Et là, à Éphèse, il essaie ce couple, mais il est rentré quand même dans une synagogue. Et là, dans la synagogue, bah, il était bien accueilli. Et même, il voulait qu'il reste. Vous vous rendez compte? Il y avait une porte ouverte là. Mais il lui dit non, qu'il devait partir parce qu'il devait être absolument à Jérusalem pour la fête prochaine. Mais ce qui est très intéressant, il dit « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. L'apôtre Paul avait des projets, mais il avait aussi cette attitude de dépendance de Dieu, si Dieu le veut. C'est vrai, c'est ce que dit la parole de Dieu, hein. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ou alors, dans ce passage de Jérémie, « Je le sais, ô Éternel, La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et Paul avait cette attitude, bien apôtre, bien qu'il ait fait tous ses voyages. Nous avions vu déjà il y a quelque temps en arrière, quand il avait voulu rentrer en Asie, empêché par l'esprit de rentrer. Il s'est détourné. Après, il a voulu aller à un autre endroit, empêché, jusqu'à un moment donné où le Seigneur l'a dirigé en Macédoine. Donc, Paul est sensible. Il veut faire la volonté de Dieu. Il veut être là où Dieu veut qu'il soit. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, à deux reprises, dans la première Épître aux Corinthiens, il dit « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté de Dieu. » Et même à la fin de l'Épître, il dit « Je veux pas cette fois vous voir en passant, parce qu'il y a eu un moment donné, il est venu et puis il est reparti, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. » Donc, vous voyez, vraiment une dépendance. À un autre endroit, dans l'Épître aux Romains, quand il leur écrit, il dit ceci à la fin, au chapitre 15, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Donc, vraiment un homme dans la dépendance de Dieu, qui avait des projets, mais si Dieu le veut. Et c'est vrai, la parole de Dieu nous exhorte à cela. Même l'apôtre Jacques, dans l'Épître, il dit, à le frère Jacques, il nous dit, « À vous maintenant qui dites... Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Alors, si Dieu le veut. Alors, bien sûr, cette formule peut être une formule toute faite aussi. Je me rappelle, en visitant quelqu'un en prison, ils étaient deux dans la cellule, et dont un dit « si Dieu le veut, si Dieu le veut ». Et à l'autre, il dit « ah bon, t'arrêtes parce que tu fais que de dire ça. À tout bout de champ, tu dis « si Dieu le veut ». Et c'est vrai que des fois, on peut dire ça par une formule, voilà, « si Dieu le veut, si Dieu le veut ». C'est une attitude de cœur. C'est pas simplement dire, bah, je l'ai dit comme ça, hein. Non. Si Dieu le veut, c'est dans une attitude, voilà. Je sais que c'est le Seigneur qui tient ma vie. C'est vrai que demain, je sais pas si je serai encore là. Mais, voilà, si Dieu le permet, je pourrais faire ceci ou cela. C'est pas, vous voyez, une formule que je rajoute, hein. Des fois, on dit, hop, oh, si Dieu le veut. Ouais. On peut le dire, hein, faut faire attention. Mais, c'est l'attitude de cœur, cette attitude de dépendance, en sachant très bien que, on ne sait pas, peut-être que Dieu veut que j'aille ailleurs. Il veut peut-être que je prenne un autre chemin. Et c'est être à l'écoute de Dieu. Et c'est, on pourrait dire, la vie du chrétien, être dans cette dépendance et avoir le désir de foi, de faire sa volonté et sa volonté seule. Paul part, débarque à Césarée, va à Jérusalem et revient à Antioche, et de nouveau il repart. On voit, Paul se mit en route, troisième voyage missionnaire. Et vous voyez, c'est ni en avion, c'est ni en train, ni en voiture, ni en calèche, ni quoi que ce soit. C'est soit à pied ou à dos d'âne ou à cheval peut-être, mais encore. Mais il continue. Et de nouveau, il passe de la Galatie à la Phrygie, fortifiant les disciples. Donc il repasse par toutes les églises qu'il avait implantées. Et son but, c'était de fortifier, d'affermir, d'encourager ses frères. Parce que le but de Paul, c'était que ces chrétiens puissent grandir. Parce que c'est le désir, voilà, qu'ils puissent être des hommes et des femmes solides, qu'ils puissent après faire d'autres disciples. Mais entre-temps, une petite parenthèse là, on retrouve Priscille et Aquilas à Éphèse, ils étaient restés là, mais il y a eu un juif à nommer Apollos, quelqu'un qui venait d'Alexandrie, à côté du Caire, hein, en Égypte. Et c'était un homme très éloquent, quelqu'un qui savait bien parler, quelqu'un qui était versé dans les Écritures, mais de l'Ancien Testament. Hein. Et c'était quelqu'un qui était instruit dans la voie du Seigneur. Hein, Marc Arthur, il dit, ouais, l'expression « la voie du Seigneur », c'est pas forcément tout, d'ailleurs on le verra par la suite, tout ce qui est par rapport à Jésus-Christ, mais par rapport à tout l'Ancien Testament. Et c'est vrai que cette expression est employée, la voix du Seigneur ou la voix de l'Éternel. On voit dans le psaume 25 où il dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Il est fervent d'esprit, il annonce avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais en fin de compte, il va dire des choses vraies par rapport à Jésus, mais il sera limité. Il sera limité parce que la Bible nous dit, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Et on peut s'imaginer, donc, c'était quelqu'un qui avait été baptisé par Jean-Baptiste, et en fin de compte, il n'avait que des brides. Il savait que le Seigneur devait venir, il a peut-être dû entendre « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », que celui qui allait venir baptisera du Saint-Esprit. Il a pu entendre ça, mais c'était un homme qui, en fin de compte, était très instruit au niveau de l'Ancien Testament, et il arrivait à parler de ce Messie qui devait venir. Mais c'est très intéressant parce qu'il le faisait dans la synagogue. Il devait parler de Jésus, mais sans plus. À un tel point que Aquilas et Priscille, quand ils l'ont entendu, c'est bien marqué, quand ils étaient dans la synagogue, ils ont entendu, ils ont dit « Ah, c'est bien, il connaît des choses, mais il lui manque des choses. » Alors on ne sait pas ce qui leur manquait, mais on voit l'attitude de Priscille et Aquilas vont prendre Apollos, ils vont l'inviter et ils vont lui faire tout un exposé exactement sur la voie du Seigneur. Donc ils ont dû lui parler de la mort, de la résurrection, de la sanctification. Ils ont dû donner toute la doctrine chrétienne, on pourrait dire toute le plan du salut, la vie chrétienne, tout ce que nous avons en Christ. Et ils ont bien fait. Et on a deux leçons à apprendre là. La première, un homme, bien qu'il soit instruit, accepte d'être enseigné. Pour une certaine humilité, parce qu'il y a des gens, quand ils savent tout, ils disent « Ah, oh, moi, j'ai rien à apprendre. Ah, oh, je sais tout. Hein, je sais, j'ai pas besoin de vous. » Non. Il a eu cette bonne attitude de vouloir apprendre. Il était d'accord d'apprendre. Et ça, on devrait avoir toujours cette attitude-là. Même en disant « Oh, ben moi, je sais tout, je connais la Bible par cœur, je la connais jusqu'au bout des ongles. » Ouais, ben, vous avez de la chance, moi, non. J'ai besoin d'apprendre, et toujours apprendre. On a toujours besoin d'apprendre. Et combien il est bon de se laisser enseigner. Avoir cette attitude, ben, « Seigneur, enseigne, et puis il y a des choses où peut-être que, ah ben oui, j'ai besoin de rectifier. Hein. » Et la deuxième leçon, c'est ce couple qui a pris ses responsabilités, qui a pris Apollos, qui ont pris du temps et qui les ont enseignés exactement dans la voie du Seigneur. Et ça, c'est une bonne leçon. Et n'hésitons pas. Voilà, si je connais et que je vois un frère ou une sœur ou quelqu'un où il n'est pas trop clair, prenez le temps. Voilà, tiens, je vais t'expliquer. Pas avec une attitude de supériorité, mais avec une attitude d'amour, hein. Et c'est ce beau verset: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est vrai qu'on a tous les outils, on a aussi la parole, cette parole qui est là. C'est, comme il est dit, toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous avons vraiment cette parole pour pouvoir faire cela, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et comme ils ont fait bien leur travail, en fin de compte, Apollos était un outil qui pouvait être une bénédiction pour les autres après. Parce que cet homme a voulu aller en Achaïe, et du coup, ils l'ont recommandé à l'église de Corinthe. Et il est parti à Corinthe. Et là, il a été une bénédiction pour les autres, parce qu'il avait été enseigné. Et il a pu transmettre. Et à un tel point qu'il a pu démontrer avec force que, par les Écritures, que Jésus était le Christ. Et c'était un homme qui, en fin de compte, avait le don d'orateur, quelqu'un qui expliquait bien, à un tel point qu'il y en avait qui disait « Moi, je suis pour Apollos. D'autres, moi, je suis pour Paul. Moi, je suis pour Céphas. » Et Paul dit « Mais qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Que des serviteurs, par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Dieu utilise qui il veut. Il n'y a pas de gloire à tirer de cela. Et il n'y a pas de groupe. Moi, je suis pour un tel, moi, je suis pour un tel. Non. On est pour Christ. C'est Christ qui nous a sauvés. Et Dieu, il nous utilise comme il le veut. Le but, c'est que ce soit lui qui soit glorifié, pas nous. Et là, de nouveau, on parle de Paul. Paul arrive, et là, il rencontre des disciples. On sait qu'ils sont 12. Alors, des disciples, on ne sait pas quel genre de disciples sont, mais des disciples. Et là, Paul, en parlant avec eux, il est sceptique quand même. Il y a quelque chose là. Il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi Paul pose une question comme ça? Le Saint-Esprit, on le reçoit quand? Quand on est de nouveau, quand on se tourne vers le Seigneur. Et Paul le sait très bien, qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on croit. Et même, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il n'est pas chrétien. J'appuie là-dessus parce que bien souvent, on prend ce passage-là pour prôner la deuxième bénédiction. Ces personnes-là disent, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, c'est vrai que c'est... On peut se dire, mais pourquoi Paul pose cette question-là? Parce qu'il ne voit pas la vie en eux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou des fois, il y a des gens qui connaissent la Bible. Ils peuvent dire le plan du salut. Ils peuvent prier. Et pourtant, ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Tout est intellectuel. Ils peuvent vous dire des choses intellectuellement. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu. Rien. Rien du tout. Par contre, il y a d'autres personnes. Vous les rencontrez pour la première fois. Tout de suite, il y a un échange. Vous dites, waouh, voilà. Nous avons le même esprit. Nous sommes en communion. Là, on voit qu'il y a la vie. Mais il y en a d'autres. Un point d'interrogation. Et je peux supposer que Paul avait ce point d'interrogation en disant, mais il y a quelque chose là. Peut-être des gens, mais... Et peut-être dans leur enseignement aussi. C'est vrai que nos églises peuvent aussi être remplies de personnes qui n'ont pas reçu l'Esprit. Ils peuvent venir au culte, prier, mais être jamais né de nouveau. On vient par tradition. On vient parce que depuis je suis petit, on m'a amené à l'église et j'ai continué à venir parce que tous les dimanches, il faut aller au culte. Mais il n'y a même pas envie de connaître plus la parole, il n'y a même pas cet amour pressant pour le Seigneur pour avoir une vie consacrée. C'est simplement le dimanche, je viens et puis c'est tout. C'est ma vie, on pourrait dire, chrétienne, entre guillemets. Parce que je dis chrétienne parce que je suis pas, la personne n'est pas chrétienne, dans le vrai sens du mot. C'est simplement quelqu'un qui vient, qui fait sa tradition, qui vient au culte, mais qui n'a pas reçu la vie, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, qui n'est pas né de nouveau. Et qui pourtant peut peut-être dire tout. Il peut vous dire Jean 3,16, il peut vous parler du plan du salut, mais ne l'avoir jamais expérimenté, jamais avoir reçu la vie. Et la Bible nous le dit, d'ailleurs, dans Jacques, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. » Le véritable enfant de Dieu, c'est celui, comme il est dit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Voilà un vrai chrétien. C'est celui qui a reçu Christ. C'est celui qui a dit « Seigneur, viens dans ma vie. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et je crois que tu es ressuscité. Et viens dans ma vie, dirige ma vie parce qu'autrement je suis perdu. » Et tout à l'heure, Alain a lu ce passage, mais je vous le relis dans 1 Jean. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Il le sait, en lui-même. Il a ce témoignage. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu dans son Fils. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que j'ai la vie? Est-ce que j'ai reçu la vie? Est-ce que Christ est en moi? Si j'ai Christ en moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais si je n'ai pas la vie en moi, c'est que je ne suis pas chrétien. Je suis quelqu'un qui est là, qui adhère, mais qui n'a jamais reçu Christ, qui n'a jamais reçu la vie. Donc, si je n'ai pas reçu Christ, je ne peux pas être une nouvelle créature, je ne suis pas quelqu'un né de nouveau. Donc c'est important, vous voyez. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. De Romains 8, il est marqué « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, l'esprit rend témoignage, vous voyez, que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Galates, il dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel nous crions « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et d'ailleurs, ça se confirme. Parce que ces personnes vont dire « Ah bon ? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, non ? Ah bon ? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Ils ne savent pas. » Alors du coup, Paul lui dit « Mais attendez, de quel baptême avez-vous été baptisé ? » Ah ben le baptême de Jean. Ah, voilà, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Parce que le ministère de Jean avait un rôle bien particulier. C'était quelqu'un qui devait être celui qui précédait pour préparer le chemin du Seigneur. Il préparait les cœurs. Il est dit dans Luc, hein, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Pour préparer un peuple bien disposé pour recevoir celui qui allait venir. Et dans Marc, il est dit, « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, vous voyez, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier, et en me baissant les courroies de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et c'est pour ça que Paul dit alors, mais il dit, mais Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Et là, on peut supposer, c'est pas écrit, mais on peut supposer que Paul va faire tout un exposé, il va leur parler de Christ, de cette vie nouvelle, de cette vie nouvelle que nous avons. Et que le baptême de Jean, c'était un signe de repentance et de pardon, mais pas le baptême d'une nouvelle naissance en Christ. Parce qu'en fin de compte, ceux qui se font baptiser, que nous baptisons ici, on baptise que des croyants, des personnes qui ont fait cette expérience avec Dieu, qui ont, en fin de compte, quand ils vont se faire baptiser, c'est qu'ils ont expérimenté déjà ces passages, comme il est dit que nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités et nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça. Quand nous pratiquons ce baptême, ce n'est pas le baptême de la repentance, mais c'est notre montrer notre identification à Christ. Voilà, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça le baptême que nous faisons. Et il y a ce passage aussi de... Excusez-moi. Ouais, ben je l'ai dit, je l'ai cité. Et là, on peut dire que ces personnes-là, en ayant entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont fait rebaptiser. Ils se sont fait rebaptiser. Oh, on va dire, mais attends, ils étaient déjà baptisés, non ? Là, ils les rebaptisent. Ils les rebaptisent parce que leur premier baptême, en fin de compte, ne signifiait pas ce qu'ils avaient vraiment vécu. Le premier baptême, quand ils se sont fait baptiser, c'était un baptême de repentance. Et là, le baptême-là, c'est pour montrer voilà, ce changement. Et la Bible dit, il y a ces beaux versets, hein, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ce qu'on dit les Écritures. » Donc, on voit que là, Paul va les baptiser. Et là, il va les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et là, voilà, cette identification. Et ces personnes-là vont recevoir l'Esprit. Tout s'est fait en même temps. Normalement, on voit plusieurs passages où le Saint-Esprit, pour Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit avant, ils ont cru avant. Et Pierre les a baptisés. Et d'ailleurs, quand il est rentré à Jérusalem, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu les as baptisés ? Il dit, mais ils ont reçu l'Esprit. Est-ce que moi, j'allais m'empêcher de ne pas le faire ? Bah oui, parce qu'en fin de compte, ils avaient été baptisés dans le Seigneur. Et le baptême d'eau, c'est pour montrer exactement ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux. Parce que le baptême, l'Esprit de Dieu vient dans nos vies à quel moment ? Il vient au moment où on croit, au moment où on reçoit Christ. Et il y a ce beau passage de Jean 7, versets 37 et 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Cette invitation est pour vous, pour ceux qui n'ont pas fait cette démarche ce matin. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et tous ceux qui croient et qui reçoivent Christ dans sa vie reçoivent l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ben, si vous n'avez pas reçu l'Esprit, vous n'êtes pas chrétien. Parce que nous avons vu tout à l'heure, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si j'ai l'Esprit, c'est que j'appartiens. Je suis enfant de Dieu et je fais partie de sa maison. D'ailleurs, il dit, nous sommes baptisés et nous formons un seul corps. Il y a ce passage aussi d'Éphésiens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce qu'il y a la manifestation de l'Esprit dans vos vies? C'est important. Là, c'est vrai qu'il y a eu le parler en langue comme un signe, mais c'est beaucoup assez. Il ne faut pas oublier que les actes des apôtres ont été faits. C'est une parenthèse entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'était pour un temps. Et là, on peut voir d'autres choses. Il y a d'autres, si on regarde bien d'autres passages, quand on voit l'Eunuque, qu'est-ce qu'il est dit? Il est réparti joyeux. Un autre, pour d'autres chrétiens, il y avait la joie, la paix. Et ça, c'est les fruits de l'Esprit. C'est dire que l'Esprit vient dans nos vies. Et il y a ce beau passage aussi dans Romains 5:5 où il dit « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs qui nous a été donné. Et quand on lit l'épître de Jean, et c'est là qu'il dit, mais nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu la vie. Mais un chrétien qui a reçu la vie va aimer. Et c'est pour ça quand il y a des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens et qui n'aiment pas, un gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils sont encore dans la mort? Est-ce qu'ils ont reçu la vie? Mais par l'Esprit, nous avons reçu l'amour. Et on peut dire, il y a tout le fruit de l'Esprit dans Galates, hein, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà l'Esprit de Dieu, ce qu'il fait dans nos vies. Est-ce qu'on le laisse agir? Il y a ce passage aussi, dans 2 Timothée, où il dit « Car l'Esprit de Dieu nous a donné, nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Et la parole de Dieu nous dit « Notre attitude constante serait « Soyez remplis du Saint-Esprit. » »« Soyez remplis de l'Esprit. » Dans Parole vivante, il dit « Mais buvez à long trait à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. » Donc, est-ce que j'ai reçu la vie? Si je n'ai pas reçu la vie, c'est que je ne suis pas chrétien. Et si j'ai reçu la vie, c'est que je suis né de nouveau, que je lui appartiens. Alors peut-être, en tant que chrétien, je suis peut-être quelqu'un qui dort. Peut-être quelqu'un qui, au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui agit dans ma vie, c'est moi. Et ça, c'est peut-être le problème. Et des fois, on est plus rempli de moi, de soi-même, que de l'Esprit de Dieu. Et c'est là où c'est important de dire, et obéir à la parole de Dieu, soyez rempli de l'Esprit, c'est dire, Seigneur, oui, je vois, tu vois, dans ma vie, il y a des choses où c'est moi qui prends les rênes au lieu que ce soit toi. C'est moi qui veux essayer de diriger ma vie au lieu que ce soit toi. Et plein de choses comme ça.
Et c'est là peut-être de dire, mais Seigneur, non, moi je vais être rempli de l'Esprit, je veux me laisser conduire par toi, je veux me laisser instruire par toi, je veux me laisser qualifier par toi, je veux que les personnes autour de moi puissent voir les fruits, la paix, la joie, tout ce que tu donnes, que les gens puissent te voir. Parce que le but, c'est que le Seigneur soit glorifié.
Comme disait l'apôtre Paul, et c'est ce que je vous souhaite à chacun, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.